J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le 8 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la Croix-Rouge, l'occasion pour nous de faire les points sur la mise en œuvre du droit international humanitaire, ainsi que les rôles que joue le comité international de la Croix-Rouge en RDC particulièrement. Le magazine se penchera également sur les défis et les opportunités du droit international humanitaire en RDC. Rejoignez-nous au 081 890 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nico Kalamba est à la réalisation de ce magazine, mis en onde par Willem Lungaba, Pierrot et la Meji. C'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs pour vos commentaires ainsi que les questions que vous posez. Et nous recevons dans ce studio Madame Claudine Mouchobekwa Kalimba, conseillère juridique régionale au Comité international de la Croix-Rouge. Madame Mouchobekwa, bonjour et bienvenue dans Paroles aux auditeurs.
Bonjour monsieur et merci de nous avoir invités.
Le monde célèbre, quand on parle de la célébration, ça veut dire quoi? C'est une fête? On fête la Croix-Rouge aujourd'hui?
Oui, on peut dire qu'on fête la Croix-Rouge, mais on commémore plutôt la création du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et donc aujourd'hui, c'est la fête de la Croix-Rouge le 8 mai.
Et on n'est pas trop habitué au croissant rouge ici. Quand on parle de croissant rouge, un peu, en bref, ça veut dire
Demain, bon, je pourrais toujours vous dire que c'est un autre signe distinctif, mm-hmm. reconnu par les conventions de Genève du 12 août 1949. Et donc demain, Radio Capi nous a donné une autre opportunité
pour parler de...
où nous allons parler spécifiquement de l'emblème.
Mm-hmm. Et là, les auditeurs vont comprendre c'est quoi la
Bien
croix
sûr,
et
croix rouge, croissant rouge, voilà. Cristal rouge, mm-hmm. demain.
Voilà. Et quand nous, la population regarde, on voit seulement la croix rouge. On peut voir le véhicule, on peut voir le drapeau, mais... Est-ce que la Croix-Rouge, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle fait en termes de structure? On voit des Congolais qui sont membres de la Croix-Rouge, on voit des étrangers, on voit des véhicules, on voit des drapeaux, on voit les gens qui entrent dans les bus, on voit dans le stade. Est-ce que vous pouvez nous permettre de comprendre un peu c'est quoi à l'intérieur la Croix-Rouge?
Alors très brièvement, je vais juste vous donner les composantes hein, du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Parce que demain, nous allons parler justement des emblèmes. Mmh. Et là, nous allons revenir sur l'identification de ces composantes-là. Donc, le mouvement international est composé du CICR, que nous sommes, le Comité international de la Croix-Rouge. Et puis, il y a les sociétés nationales. En l'occurrence, pour la RDC, c'est la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, CRRDC. Et nous avons aussi la Fédération internationale des sociétés nationales, justement, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Mmh. Maintenant, si on doit avoir un peu, en quelques mots, ce qu'est fait exactement le CICR dont vous êtes membre et qu'est fait la Croix-Rouge de la RDC. Et vous avez parlé des fédérations internationales de sociétés. Est-ce qu'on peut avoir un peu, en bref, ce que chaque entité fait?
Alors, très brièvement, la fédération intervient en cas de catastrophe naturelle. La société nationale, c'est-à-dire la Croix-Rouge de la RDC, intervient en cas de catastrophe naturelle et en cas de conflit armé pour certaines questions. Mmh. Et le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge que nous sommes, nous avons mandat pour assister et protéger les personnes qui sont affectées par les conflits armés et d'autres situations de violence. Et nous avons reçu mandat de promouvoir et de développer les droits internationaux humanitaires dont nous sommes garants, de par le mandat que les États nous ont donné.
Et c'est depuis combien de temps que le comité international travaille ici en RDC?
Le comité international de la Croix-Rouge est en RDC depuis plus de 30 ans, mais l'accord de siège entre le CICR et la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, a été signé en 1982.
Mmh. Oui. Mais quand on parle du droit international humanitaire, est-ce que cela, c'est seulement quand il y a des conflits armés ou c'est une question qui peut être évoquée en dehors de conflits armés?
Le droit international humanitaire, c'est un ensemble de règles qui ne s'applique qu'en cas de conflits armés. Donc le droit international humanitaire, qui est aussi appelé droit des conflits armés ou droit de la guerre, c'est ce corpus-là, des dispositions qui ne s'appliquent qu'en cas de conflit armé.
Mais il vise exactement quoi?
Le droit international humanitaire a deux buts, deux objectifs. Il y a d'abord le premier objectif, c'est celui de limiter les méthodes et les moyens des parties à un conflit. Donc, les parties à un conflit ne sont pas autorisées à utiliser, ne peuvent pas utiliser des moyens d'une manière illimitée et de leur choix. Mmh. Oui, c'est le choix de ces moyens est limité et le choix des méthodes de mener la guerre est limité. Le deuxième objectif du droit international humanitaire, c'est de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus à un conflit, aux hostilités. Qui ne participent plus tout simplement parce que les blessés et les malades, quand bien même ils ont participé à un conflit armé, par exemple des militaires, quand ils sont blessés ou malades, ils ne participent plus. Donc, ils deviennent aussi... ces gens-là aussi sont protégés par le droit international humanitaire. Donc, les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus. Mais aussi, ils protègent aussi les biens qui sont susceptibles d'être affectés par les conflits armés.
Et les biens, c'est spécifiquement comme quoi, par exemple?
Par exemple, les biens culturels. Les églises, les écoles, voilà, les édifices culturels, les musées, voilà, doivent être protégés. Les centres de santé doivent être protégés.
Et quand, quand on revient au cas de la RDC, on sait que le pays a connu plus d'une dizaine de décennies maintenant de conflits armés. On en est sorti. Alors, on sait que dans les conflits, vous avez par exemple les troupes loyales, cela veut dire qu'ils utilisent peut-être les armes conventionnelles parce qu'ils sont reconnus comme une armée. Et d'un côté, vous avez des groupes armés ou des groupes rebelles. Est-ce que comment le CIC arrive-t-il vraiment à faire respecter le droit dans un cas spécifique comme de la RDC quand on sait que le parti qui se bat peut-être ne peuvent pas utiliser le même moyen conventionnel, et surtout quand il s'agit des groupes armés, par exemple. Comment, en RDC, on est parvenu à mettre en œuvre ce droit?
Alors, la mise en œuvre du DIH, c'est le droit international humanitaire, permettez que j'utilise DIH. Donc, la mise en œuvre du DIH relève d'abord de la prévention. Le CICR a reçu mandat des États de promouvoir le droit international humanitaire, de le faire connaître, de diffuser le droit international humanitaire auprès du plus grand nombre possible. Évidemment, c'est une obligation des États, mais qui ont jugé bon aussi de donner ce mandat au CICR de par son expertise. Donc, dans nos activités justement de promotion du droit international humanitaire et de sensibilisation, nous allons auprès des divers acteurs qui interviennent dans un conflit armé pour leur rappeler ou alors leur enseigner les règles du droit international humanitaire, afin de prévenir, d'en prévenir les violations. Voilà.
Ça veut dire que le travail se fait, on peut dire, en deux, avant même que les conflits se déclenchent. Est-ce que le CICR intervient en amont pour enseigner ses droits avant le déclenchement des conflits, ou bien c'est quand il y a déjà les conflits qu'il faut maintenant descendre pour enseigner ou sensibiliser sur le droit international humanitaire?
Non, comme on dit, mieux faut prévenir que guérir. Donc, nous avons tout un département de prévention qui est composé de la communication, la mise en œuvre et le travail auprès des forces armées et de sécurité. Voilà, donc c'est là, dans le cadre de la prévention, que nous faisons déjà des activités en amont, avant même qu'un conflit armé éclate. Okay. Vous voyez, on a été ici en 82, on a mené des activités de prévention dans la mise en œuvre des traités du DIH, mais aussi dans la mise en œuvre du DIH pour ce qui concerne tout ce qui est forces armées et de sécurité.
Mmh. Et, mais est-ce que vous avez, si les choses ont pu, il y a eu des conflits, est-ce que ça a été suffisamment compris? Est-ce que les droits humanitaires dans le cadre de la RDC, sur le plan pratique, les choses ont-elles évolué?
Oui, mais bien sûr, parce que bon, les évolutions, si je commence à vous en parler maintenant, évidemment, nous n'allons pas finir, mais des évolutions ont eu lieu quand même. Mmh. Il y a des traités qui ont été ratifiés pour ce qui concerne la mise en œuvre du droit international humanitaire. Il y a des lois de mise en œuvre qui ont été adoptées. Le droit international humanitaire est enseigné. Ce volet, on l'oublie très souvent. C'est dans la mise en œuvre aussi et c'est dans la prévention aussi.
Et j'ai d'ailleurs un certificat.
Voilà, par exemple. Et surtout, surtout aussi, il y a eu tout ce travail qui a été fait auprès des forces armées de la RDC, de FARDC, mais aussi auprès de certains groupes armés avec lesquels nous sommes en contact. Et je vous dis que les États déjà savent que nous sommes une organisation neutre, impartiale et indépendante. Et donc, on nous donne l'opportunité, on nous laisse travailler de la manière qui est la nôtre, en respectant justement cette neutralité, cette indépendance et cette impartialité.
Avant d'écouter les auditeurs qui sont en ligne, peut-être une question, c'est celle de savoir, est-ce que le CICR a-t-il les moyens coercitifs? Par exemple, si vous vous rendez compte qu'il y a un parti, ceux qui sont en conflit n'arrivent pas à respecter les droits internationaux humanitaires, avez-vous un moyen de les contraindre ou un mécanisme pour le faire respecter?
Non, nous n'avons pas de moyens coercitifs. Voilà, nous faisons juste de la sensibilisation. Et dans ce cadre-là, de rappeler qu'il existe des règles qui doivent être appliquées à cette situation-là, nous menons un dialogue bilatéral confidentiel avec les différentes parties. Mais d'abord, les moyens de contrainte appartiennent à l'État. Et les conventions de Genève ont donné obligation aux États de se doter de moyens pour punir toutes les violations graves du droit international humanitaire. Et donc, il est demandé aux États de mettre en place des institutions judiciaires fortes, des textes aussi, mais aussi, par exemple, de se doter de la compétence universelle de telle manière à poursuivre toutes les personnes qui se rendraient, qui seraient
coupable de violations.
Voilà, coupable de violations du droit international humanitaire, de poursuivre ces personnes ou de poursuivre dans le cadre de ces violations, quel que soit l'auteur des violations, quelle que soit la victime et quel que soit le lieu où ces violations ont été commises. Ça, cette obligation a été faite aux États. Vous conviendrez quand même que la mise en œuvre reste quand même l'apanage des États. Voilà, parce que c'est la mise en œuvre des traités. Et ce qui s'engage dans les traités, ce sont les États.
Dieudonné, vous êtes à Arou, Marie-Paul à Kisangani, Alain ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Dieudonné, bonjour.
Bonjour à Dieu de la paix, bonjour à l'invité. Juste une petite précision, je suis à Mahagui pour le moment.
Vous êtes à Mahagui, vous étiez intervenu, je crois, avant-hier, c'était à Arou, vous êtes à Mahagui maintenant. On vous écoute, Dieudonné.
Merci beaucoup et surtout je tiens aussi à remercier toute l'équipe de la Radio de la Paix parce que Maïa a été peu à pas, le relais spécial de Radio Capi avait connu un petit problème. Deux semaines, on n'a pas suivi la Radio de la Paix. Aujourd'hui, c'est réhabilité, c'est une fierté pour nous. Quant à la thématique du jour, vraiment, je suis persuadé et j'ai d'abord de dire à tous ces voyants, Croix-Rouge, sur tout ce qui se donne, et surtout ceux qui sauvent l'humanité, parce que ce n'est pas un travail moindre, c'est du sacrifice, comme toujours leur slogan est, c'est sacrifier pour le bien-être social. En fait, pour moi, aujourd'hui, parler de la Croix-Rouge, République démocratique du Congo, et là, d'office, je vois d'abord le gouvernement et ceux qui sont comme le personnel, il semble qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème par rapport à la perspective, parce que quand on voit mieux comparativement à d'autres pays, je prends l'exemple de l'Ouganda, la Croix-Rouge est bien structurée, la Croix-Rouge est accompagnée, la Croix-Rouge est presque aussi solide et ça donne l'envie à la population de joindre et surtout de participer à ces voyages de travail. pour sauver aussi la vie des uns et des autres. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, ce que j'ai constaté, quand il y a le problème par rapport au fonds, au financement, c'est là où et le gouvernement et la Croix-Rouge, ceux qui sont actifs sur le terrain, sont plus aussi considérés, ils sont actifs. Mais quand ils travaillent pour quelque chose qui ne paye pas, ils sont presque démissionnaires. Mais aussi, je vois que le peuple congolais s'intéresse plus au cash flow derrière l'argent. Se sacrifier pour sauver l'humanité et adhérer à la Croix-Rouge facilement, ça pose problème d'eux. Il est possible pour le moment de faire d'abord une restructuration au niveau de cette structure, la Croix-Rouge, et aussi le gouvernement puisse prendre ses responsabilités tout en accompagnant la Croix-Rouge et donner cette motivation à ceux qui prétendent travailler d'une manière volontaire et qui peut aussi envie de ne rien gagner comme cause ou comme prix, parce que on a vu que pour le moment, je prends l'exemple de Maïdou. Vraiment, il n'y a rien. Les croix ils sont là, presque une personne s'intéresse. Alors qu'on a vu pendant la guerre, les actions, et jusqu'à ce jour, ils contribuent efficacement. Si ça barde, c'est toujours...
Et alors, là, Dieudonné, si on vous suit, pour votre intervention tourne autour de la Croix-Rouge locale, hein, Croix-Rouge de la RDC. Vous parlez en termes d'accompagnement des moyens. Peut-être avec notre invité, on pourra voir s'il y a des liens aujourd'hui entre les comités internationaux de la Croix-Rouge avec la Croix-Rouge locale, s'il y a-t-il de liens. On va évoquer ça. Merci beaucoup, Dieudonné. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani et vous avez suivi spécifiquement l'échange avec notre invité autour du droit à l'intervention humanitaire. Quel est votre point de vue, Marie-Paul?
Oui, merci de m'avoir associé dans les débats, monsieur le journaliste. Je salue en passant votre invité ainsi que tous les auditeurs de la radio Okapi. Vous savez, toute organisation dans le monde est créée pour des objectifs spécifiques. Des objectifs que nous appelons des objectifs explicites et implicites d'une organisation. Alors, lorsque nous voyons la création du CSE à travers le monde, c'est justement une organisation qui est purement humanitaire, qui sert beaucoup de nations à des travaux, à des actes qui sont louables. Et pour le temps de la RDC, je dirais que le CSE a un bilan purement positif. Et ce bilan positif, c'est parce que lorsque on a mis en œuvre, lorsque cette organisation est venue opérer en RDC, nous avons vu que l'organisation a servi dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'urgences. Nous avons vu pour les camps de la province de la Tchopo, lorsqu'il y avait la guerre des six jours, nous avons vu des humanitaires qui sont venus enterrer les morts, déplacer les gens. Tout cela était vraiment innovation totale de la part de la population. Mais depuis 2001, nous sentons une certaine léthargie dans les agis de cette organisation. Et lorsque nous entrons dans l'histoire des organisations dans notre pays, nous nous rendons compte que la réalité que subit le CICR en République démocratique du Congo est absolument la même réalité que les autres organisations subissent. Et quelle est cette réalité? Et cette réalité est du fait que la RDC ne subventionne plus les organisations internationales. Alors que, si nous voyons bien, la RDC, c'est un partenaire stratégique de toutes les organisations non gouvernementales ou gouvernementales qui sont installées dans les pays. Mais la RDC ne les fait pas. Et aussi, il y a un sabotage. Nous avons vu les humanitaires qui viennent secourir la population. Mais les groupes armés ne respectent pas ces humanitaires. Et ces humanitaires-là sont frappés comme n'importe qui, alors que les droits humanitaires interdits à toucher aux humanitaires. Voilà aussi, il y a un problème. Et en troisième lieu, il y a aussi le problème de l'application même de l'application de certaines dispositions dans notre pays. Et les humanitaires viennent avec des programmes bien tracés. Et lorsque ces humanitaires arrivent ici, avec notre politique, ça pose déjà problème. Ils sont freinés par d'autres actions. Ce qui est aussi une contrevenance, justement, à leur compétence. Et aussi un problème, si nous allons, et puis moi je suis à l'est ici, si vous circulez un peu la partie est, vous allez voir que les locaux où habitaient les CICR, tous ces locaux sont presque vides, sont quasiment vides. Et les gens qui sont aujourd'hui, qui sont commis à ces activités des CICR, ces gens-là n'ont pas des moyens basiques pour intervenir à temps réel. Ils n'ont plus de véhicules. Les seuls véhicules qu'ils avaient, ce sont des véhicules qui étaient des donations des autres partenaires du CSE, mais ces véhicules-là sont tombés en
panne. Alors, si je vous écoute, Marie-Paul, j'ai peut-être une autre invitée qui pourra nous permettre de comprendre, parce que dans votre intervention, vous parlez des interventions sur terrain en termes d'assistance. On va avoir des précisions avec notre invité pour savoir qui fait exactement quoi quand il y a, par exemple, le cas d'intervention. Et ça pourra nous permettre de comprendre ce que le CICR fait, ce que les autres font, par exemple, en cas de catastrophe ou bien qu'il y a des victimes des guerres. Mais vous avez quand même estimé que le travail a été fait. Mais quand on parle de CICR comme victime, notre invité pourra nous dire si le CICR a déjà connu des cas, s'il a été victime, par exemple, dans les conflits qui ont eu lieu dans notre pays. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alain, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à votre invité. Bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Oui, moi je crois que sur le plan international, cette organisation Croix-Rouge et Croissant-Rouge a fait montre d'une certaine efficacité dans l'action. Et même ici chez nous, comme les autres l'ont dit, nous avons senti effectivement son apport, surtout en termes de crises armées et d'autres catastrophes qui ont surgi dans notre pays. Le problème c'est que vers les années 80 et 90, on avait senti un certain engouement de la population qui allait vers cette organisation pour se faire recruter, pour devenir membre. Mais depuis les années 2000 jusqu'à ces jours, on sent que cet engouement n'existe plus. Parce que quand nous circulons la ville, puisqu'on voyait comme le bureau de représentation de la Croix-Rouge n'existe quasiment plus, les dispensaires que nous voyons au niveau de province, même au niveau de la ville de Kinshasa, ça n'existe presque plus. Et l'engouement n'existe plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a quand même un problème sur le plan organisationnel, d'abord sur le plan local. Généralement, ce genre d'organisation, elles attirent le public ou elles attirent la population, c'est par rapport à certaines motivations qui existeraient. Dans les années 90, on sentait que les gens allaient vers la Croix-Rouge justement pour avoir des cartes et cela leur permettait de circuler gratuitement. Mais aujourd'hui, le fait que cette motivation n'existe plus, les gens ne sont plus attirés. Et pourtant, cette organisation voudrait faire que nous soyons, c'est-à-dire les gens qui sont recrutés soient formés par rapport aux catastrophes, par rapport à certaines réalités humanitaires qui peuvent surgir. Mais le fait qu'il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus de recrutement, je suppose qu'il y a un problème du personnel ou des gens qui sont engagés. Alors, je pose plutôt une question. Par rapport aux statistiques, entre les années 80 et 90 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a le même nombre de personnel ou ça a baissé? Si ça a baissé, pourquoi? N'est-ce pas qu'on devrait insister sur l'organisation, d'abord sur le plan local? Parce que nous savons qu'il y a une représentation au niveau international, parce que c'est une organisation internationale, mais sur le plan local, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les personnels sont bien traités? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'organisation a connu une évolution ou une régression? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'apport qu'a apporté cette organisation entre 90, 80, 90 et aujourd'hui, on peut le comparer? Et à quel niveau on peut constater le CV.
Alors je crois qu'Alain, si je vous écoute bien là, vous êtes en train de parler en termes de la Croix-Rouge locale, ses interventions sur terrain. Comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des préoccupations sur le travail qui est fait chaque entité, on pourra voir des pressions tout à l'heure. 081-890-4969. Marcel et Jérémy, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais je le disais tout à l'heure, vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Nous revenons à vous, Madame Claudine Mouchobé-Kwakalimba, conseillère juridique régionale auprès du comité international de la Croix-Rouge. Quand on écoute le premier groupe d'auditeurs, on se rend compte qu'il y a d'abord un problème. Un problème, c'est que les gens, ils ont besoin de comprendre quelle entité fait quoi exactement. Parce que vous voyez que les interventions ont tendance à tourner sur les actions de terrain, les catastrophes, la guerre. On parle du personnel. Et c'est là que je m'en vais pour poser la question de relations entre le comité international et la Croix-Rouge locale. Peut-être ça peut permettre aux auditeurs de comprendre qui exactement peut répondre à quoi. Parce que les gens voient seulement la Croix-Rouge. Maintenant, à l'intérieur, ils doivent savoir mais qui répond à quoi. Et comment on peut dire que c'est celui-ci qui répond à ça? Voilà un peu cette précision que les gens peut-être ont besoin d'avoir.
Merci, merci messieurs et merci aux auditeurs. Alors, comme je l'ai dit au début, nous sommes dans une même famille, le mouvement international de la Croix-Rouge. Et dans cette famille, on peut dire qu'on a trois entités. La Fédération internationale, les sociétés nationales, à l'occurrence en RDC, la Croix-Rouge de la RDC, et le comité international de la Croix-Rouge. Alors, comme nous sommes de la même famille, c'est sûr que nous collaborons. Mais chaque entité a son mandat à lui et les autres viennent collaborer. Demain, nous allons en parler aussi quand nous allons parler de l'emblème. Le comité international de la Croix-Rouge intervient dans des situations de conflits armés et autres situations de violence. Ça dépend du degré de violence qui peut arriver à un conflit armé, par exemple. La société nationale, c'est-à-dire la Croix-Rouge de la RDC, intervient aussi dans des situations de conflits armés, par exemple, pour ce qui concerne les enterrements dignes. Par exemple, vous savez, quand il y a un conflit armé, il y a des morts, et ces morts, on ne va pas les laisser traîner dans la rue. Parce que l'idéal de Henri Dunant, quand il a fondé ce mouvement, c'était qu'on vienne au secours aux blessés et aux malades. Il faisait son voyage, je pense que vous aurez l'occasion de lire un souvenir de Solferino. C'est là-dedans, il raconte son histoire, c'était un homme d'affaires prospère et qui était en voyage et il y avait un conflit armé à ce moment-là. Il a vu des malades et des blessés qui étaient laissés comme ça à leur triste sort. Et il a créé cette société de secours justement pour venir au secours des blessés et malades en cas de conflit armé. C'était ça le but. Et donc la Croix-Rouge intervient aussi en cas de conflit armé pour faire ce que le mandat ce qui relève de son mandat, mais aussi en cas de catastrophe naturelle. Et la fédération intervient en cas de catastrophe naturelle. Alors, pour ce qui concerne la collaboration entre le CICR et la Croix-Rouge de la RDC, je vous ai dit, par exemple, quand il faut soigner des blessés, des malades pendant un conflit armé, il y a aussi la réunification familiale. Après un conflit armé, vous savez, les familles sont séparées et le CICR collabore avec la Croix-Rouge pour réunifier les membres des familles, justement parce que la Croix-Rouge de la RDC est partout et que le CICR n'est pas partout, justement. Et donc, à ce moment-là, on collabore. Et nous collaborons aussi dans d'autres domaines. Mais pour ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, celui de la mise en œuvre, on collabore, si on peut dire, un peu avec la Croix-Rouge. Par exemple, pour le suivi de la loi sur l'emblème. Nous collaborons parce que cette loi sur l'emblème nous concerne tous, concerne tout le mouvement. Nous verrons demain pourquoi. Parce que justement, il faut protéger l'utilisation de cet emblème. Voilà.
Alors, si nous revenons, parce que nous nous focalisons sur la question du droit international humanitaire, les États sont de partenaires, n'est-ce pas? Parce que ce sont les États qui ont donné mandat au CICR de pouvoir travailler. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la RDC, il y a suffisamment d'engagement aujourd'hui?
Oui, mais bien sûr, il y a un engagement. Moi, si on revient toujours à la mise en œuvre du droit international humanitaire, il faut voir quand même que aujourd'hui nous avons une très bonne relation avec le FARDC, nous avons une très bonne relation avec la police nationale où nous intervenons pour des formations, des séminaires. Nous avons aussi des séminaires avec les magistrats, nous en avons avec des avocats, nous avons des séminaires avec les parlementaires, nous avons un dialogue avec des parlementaires, avec des experts gouvernementaux. Et oui, on peut dire que la RDC s'est engagée résolument à mettre en œuvre le DIH, nonobstant quelques petits retards.
Mais est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent effectivement d'évaluer?
Oui, quand nous évaluons, par exemple, pour la mise en œuvre des traités, nous allons d'abord regarder s'il y a des traités qui n'ont pas été ratifiés. Là, par exemple, je peux voir que le corpus principal, à savoir les conventions de Genève, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi que le protocole additionnel de 1977, les deux ont été ratifiés par la RDC. Il reste évidemment le protocole additionnel 3 qui a créé un troisième emblème, c'est-à-dire le cristal rouge. Il y a aussi tous les autres traités sur les droits des enfants et l'implication des enfants dans les conflits armés qui ont été ratifiés. Il y a eu la ratification du statut de Rome, évidemment, parce que on a parlé de la répression des violations graves du droit international humanitaire. On va aussi parler la ratification de la convention de Kampala, qui est la convention de l'Union africaine sur les personnes déplacées internes, qui aura 10 ans d'ailleurs cette année. La RDC l'a ratifiée. Il reste évidemment des choses à faire, mais les ratifications, quand même, ça avance bien. En ce qui concerne les lois de mise en œuvre, il existe des lois de mise en œuvre. Et moi, je me dis, la plus grosse avancée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne la répression, la RDC est citée quand même parmi les pays qui ont un bon corpus juridique en ce qui concerne la répression des violations graves du droit international humanitaire. Voilà.
Mais il y a un fossé quand même entre la volonté de ratifier, d'avoir une loi, et la mise en œuvre sur terrain. Il y a souvent un fossé.
Oui, mais bien sûr. Il y a toujours la ratification, c'est évidemment, hein, quand on regarde l'avancement des dossiers en ce qui concerne les ratifications et la mise en œuvre, il y a quand même une différence. On ne va pas parler d'un grand fossé. Il y a quand même une différence. Mais bon, je pense aussi c'est lié à des échéances. Par exemple, au Parlement, à un certain moment, ils ont travaillé sur la loi sur l'emblème, sur la ratification des conventions sur les armes, la convention de l'Afrique centrale sur les armes légères et des petits calibres qu'on appelle convention de Kinshasa, et la convention sur les armes à sous-munitions. Mais jusqu'aujourd'hui, justement, on n'a pas encore ratifié ces textes-là. Et je pense que c'est aussi le calendrier politique qui est là-dedans. Voilà. Il n'y a pas que les DIH.
Et d'ailleurs, nous avons eu en son temps exactement un débat dans Parole aux auditeurs sur exactement cette loi en ce qui concerne les armes légères de petit calibre. Je me rappelle bien. On avait fait un débat autour de ça pour essayer quand même de faire voir l'importance de ces textes. On va revenir à vous parce qu'il y a la question sur les pesanteurs. Par exemple, la RDC, quels sont les pesanteurs qui font aujourd'hui peut-être qu'on n'arrive pas à aller plus loin dans la mise en œuvre du droit international humanitaire? Et ça, on va revenir sur cette question. Le temps d'écouter trois auditeurs, Marcel est à Luisa, Jérémy à Lubumbashi et Timothée à Bounia. Et là, vous allez me préparer. Est-ce qu'il y a-t-il des pesanteurs aujourd'hui? En attendant, on écoute le trois auditeurs. Marcel, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Monsieur Pierrot, bonjour. Bonjour également à madame, votre invitée sur le plateau de Radio Okapi. Marcel Didier, François à Luisa. Bon. Monsieur Pierrot, heureusement que certaines questions que j'allais poser à la dame, on a essayé un peu de les balayer. Je voulais même parler de la pesanteur dont vous voulez parler. Mais il faut reconnaître que le bilan de cette structure en République démocratique du Congo est mitigé. Les œuvres sociales de cette structure, monsieur Pierrot, ne témoignent pas ses interventions, voire même son existence.
Alors Marcel, si vous pouvez permettre, alors quand vous parlez du bilan mitigé, si on revient par exemple à toutes les pressions que notre invité a données par rapport au droit international humanitaire, est-ce que vous avez des préoccupations aujourd'hui spécifiques au-delà de problèmes qui touchent à vos interventions de la Croix-Rouge locale, si on doit revenir à ce qui est comme sujet principal dans cet échange?
Oui, nous pouvons revenir. C'est pourquoi je vous ai dit que je voulais parler de la des pesanteurs qui font à ce que
les lois, parce qu'il y a, il faut reconnaître quand même les côtés positifs de cette structure de la République démocratique du Congo. Mais nous voulons parler de la ratification, de la pragmatisation des textes juridiques et de la mise en œuvre de ces textes ici qui peuvent aussi effectivement booster le développement ou soit la bonne stratégie de pouvoir aider cette structure à bien intervenir dans les pyramides, dans les catastrophes et consorts. Parce que vous verrez que cette structure s'assigne aussi beaucoup plus de missions du point de vue sanitaire, du point de vue de l'assistance sociale et consorts. Mais vous allez voir que cette structure ici manque du point de vue logistique. Il y a beaucoup de choses à faire encore par rapport à notre gouvernement. C'est ce que je disais, qu'il aurait fallu que l'on puisse revoir ça. Les pesanteurs qui font entre la théorie et la pratique dans la ratification de ces lois. Ça bloque à quel niveau? Et alors, quelles sont les stratégies pour qu'on puisse se dépasser, arriver à trouver des solutions par rapport à ça? Ainsi, pour parler de ces comités internationaux de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge locale elle-même. Mais aussi, je voulais dire aussi, est-ce que il y a une loi, Madame Pémé, renvoyée dans la Constitution par rapport à une loi qui parle quand même de cette structure? En plus de ça, je voudrais demander à Madame, parce que vous m'avez demandé, qu'elle puisse m'expliciter un peu la différence entre la croix rouge et les poissons rouges. Si je peux vous remercier ainsi.
Merci beaucoup, Marcel. Mais je crois que cette question, vous êtes fidèle auditeur de Radio Okapi. On va suivre ça demain à 10h dans l'émission Okapi Service. Hein. Okapi Service va revenir uniquement pour parler des symboles. Là, vous allez comprendre la différence entre la croix et les croissants. Le rendez-vous est déjà pris pour demain avec l'équipe d'Okapi Okapi Service demain, je crois bien. Mais vous êtes revenu sur la question des pesanteurs pour savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui des stratégies qui peuvent être mises en place pour amener l'État congolais, par exemple, à faire sa part de responsabilité. Je crois que la question sera évoquée dans le défi hein, qui reste à relever pour le droit international humanitaire dans notre pays. Merci beaucoup, Marcel. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à Madame l'invité avec vous. Je pense que la thématique est vraiment pertinente, mais à mon humble avis, je pense qu'il faut hein, un renfort conséquent en termes de finances et de matériel hein, pour octroyer à ce comité international les moyens de sa politique, parce qu'on constate des fois qu'ils sont aux abonnés absents, surtout dans d'autres contrées où les poches noires en termes de conflits armés se font remarquer. Parce que ce comité, hein, n'est-ce pas, jouit d'un statut international, il revient peut-être aux partenaires de se cotiser en termes de moyens pour pouvoir octroyer, n'est-ce pas, à cet organisme. Je pense que cet organisme doit aussi travailler concomitamment avec d'autres organismes ici en place, tels que la MONUSCO, voulais-je dire, FAO, ainsi que d'autres. Mais nous sommes en train de constater que durant les 30 ans déjà passés, mais je pense qu'il faut maintenant jeter un regard rétrospectif pour voir qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été, pour pouvoir, n'est-ce pas, relever un peu l'équivoque, parce que nous sommes en train de voir que cet organisme joue un rôle important, mais il revient à l'État qui est partenaire numéro un ici, de pouvoir soutenir, non, n'est-ce pas, cet organisme pour pouvoir, n'est-ce pas, terminer un peu ou résoudre les problèmes sur le terrain. Mais il arrive que c'est. Donc, ils ont des prérogatives assez limitées parce que les conflits, c'est à gauche, à droite, mais ils sont plus focalisés sur une seule direction. Alors, moi, je pense qu'ils doivent élargir leurs actions jusqu'à contrôler tout.
Mais alors là, je crois que Jérémy, à ce niveau, notre invité pourra nous dire comment le comité international est-il structuré sur terrain. Peut-être on a-t-il des bureaux à Kinshasa, y a-t-il des représentations en province? Est-ce que c'est dans les provinces où il y a des conflits armés? Et ça, on va voir ces précisions avec notre invité. Ça, c'est par rapport à la structure du travail sur terrain du comité international de la Croix-Rouge. Timothée, vous êtes à Bounian. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, la radio Papi. Bonjour, Timothée, votre auditeur de la radio.
Oui, on vous écoute, Timothée.
Oui. Je suis à Bounia et je suis en train de voir ce que le président de la République sur le fonctionnement de la Croix-Rouge. Peut-être que, comme vous venez d'épingler la situation que traverse certains certains points, de certains territoires, même si vous êtes ici aussi à Bounia. Nous voyons que la Croix-Rouge assume vraiment sa tâche. Pourquoi il y a ces faits de conflits armés dans des bouches, il y a parfois aussi des endroits où il y a personne qui peut arriver à faire des. Je ne sais pas si la Croix-Rouge joue quelque rôle, ou encore présente des forces aussi de l'intervention extérieure qui n'arrivent pas aussi pour réaliser certaines tâches. Il est difficile pour que ces organismes arrivent vraiment à rappeler toutes les candidats de la RPG sur un bon focus. Alors, à mon humble avis, il fallait l'appui de certains organismes pour quand même renforcer aussi la Croix-Rouge, par exemple, d'une façon locale, dans des chefs-lieux, par exemple, dans des territoires, pour avoir un bon fonctionnement. Il est possible que si avec d'autres organismes, ça soit bon.
Merci beaucoup, Timothée Deo, Gracias et Yannick, vous gardez la ligne. On revient directement à vous, Madame Claudine Mouchobekwa. Quand vous écoutez les auditeurs, j'ai envie de poser cette question sur la structuration de votre travail, du CICR sur terrain. C'est Kinshasa, c'est des représentations en province, c'est dans le lieu où vous avez des conflits armés, mais des endroits où il n'y a pas de conflits armés. Comment le travail est-il structuré sur terrain au niveau du CICR?
Merci messieurs et merci à tous les auditeurs. Nous avons une délégation ici à Kinshasa, c'est la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo qui est ici à Kinshasa. Nous avons une sous-délégation à Goma, nous avons un bureau à Beni, donc dans le nord Kivu, nous avons une sous-délégation à Goma, un bureau à Beni. Dans le sud Kivu, nous avons une sous-délégation à Bukavu, à un bureau à Uvira. Nous avons une sous-délégation à Bunia, une sous-délégation à Kananga, à un bureau à Kalemie. Donc, nous intervenons justement aussi en urgence. Par exemple, nous sommes intervenus à Yumbi, quand il y a eu des problèmes à Yumbi. Voilà. Donc, nous intervenons, nous avons des bureaux là où, selon nos évaluations, il y a le plus de besoins. Mm-hmm. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes humanitaires. Nous sommes un maillon de toute cette chaîne humanitaire, justement. Mm-hmm. Et nous évaluons, justement, les besoins. Et c'est à ce moment-là que nous nous posons quelque part. D'ailleurs, vous verrez qu'à Kisangani, nous avons fermé, il y a peut-être une année ou deux ans, nous avons fermé les bureaux et nous avons réouvert les bureaux de Bounia. Voilà, donc nous évaluons selon les besoins, sans prétention justement.
Exactement.
On ne va pas tout résoudre.
Oui. Voilà, parce qu'on a parlé tout à l'heure de pesanteurs. Oui. Je peux lier ça directement avec les défis aujourd'hui. Oui. En termes de mise en œuvre de droits humanitaires. Quels sont les défis majeurs pour les CICR?
Alors, les défis majeurs en RDC. Hein?
En RDC, exactement.
Les défis majeurs, c'est, je pense, l'absence de coordination. Surtout ce qui concerne le droit international humanitaire. Je vais vous donner un exemple. Il existe cette structure qu'on appelle Commission nationale du droit international humanitaire. C'est un mécanisme justement de coordination interministérielle qui représente, dans lequel siègent des représentants des ministères concernés par les questions de droit international humanitaire, où évidemment la société civile peut siéger, et la Croix-Rouge de la RDC et d'autres structures. Hein. Ça dépendra juste de l'État qui va estimer que dans cette structure, on va mettre tel ou tel service. Par exemple, ici, en RDC, on dirait le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, de l'Action humanitaire, de la Santé, ainsi de suite. C'est l'État lui-même qui évalue et qui dit telle structure va siéger dans cette commission. Mmh. Alors, quel est le rôle de cette commission? C'est faciliter justement la coordination des ministères techniques compétents de telle manière qu'il y ait continuité et efficacité dans le travail de mise en œuvre. Et ça n'existe pas encore ici. Le projet a été présenté au ministère des Affaires étrangères qui avait fait la demande au CICR pour un soutien dans ce sens, parce que je vous ai dit que le CICR apporte un soutien aux États. Le CICR ne se substitue pas aux États. Il apporte un soutien à la mise en œuvre. Et donc, dans le cadre de ce soutien-là, nous avions été sollicités par le ministère des Affaires étrangères pour justement aider à mettre en place cette structure. Et cette structure, si elle voit le jour, elle aiderait à coordonner tout ce qui est mis en œuvre du droit international humanitaire. Mm-hmm. Et donc, on n'aura plus besoin d'aller dans telle structure, de parler à d'autres. On aura une structure de coordination qui va suivre justement ces questions de mise en œuvre du droit international humanitaire. Et c'est là le gros défi ici en RDC, c'est que ces structures n'existaient pas. Elle peut prendre la forme que l'État veut, hein. Elle peut prendre la forme que l'État veut, mais ce n'est pas une structure qui est demandée par les conventions de Genève. Non. C'est juste un mécanisme qui aide à la coordination du travail, justement, du pays en ce qui concerne la mise en œuvre du droit international.
Mais est-ce que dans le travail du CICR, y a-t-il aujourd'hui des appuis directs auprès des communautés? Par exemple, s'il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes spécifiques qui concernent les CICR, est-ce qu'y a-t-il une interaction comme ça avec la communauté?
Oui, mais bien sûr. Ben oui, quand nous parlons...
Parce que vous avez parlé de réunification, par exemple, familiale, oui.
Oui, réunification familiale. Là, on travaille avec les communautés et la Croix-Rouge. Nous avons aussi l'assistance. Quand on va, par exemple, en distribution des vivres ou des semences ou en distribution de bétail, voilà. Quand on soutient des communautés victimes des conflits armés qui ont tout perdu, par exemple, s'ils sont agriculteurs, on leur donne des semences, tout simplement parce que, vous vous en doutez, ils ont perdu leurs semences, les champs n'ont pas été défrichés et donc après... Voilà, on n'a pas de sémence. Et nous, on soutient dans ce sens. Ouais.
Et ça, c'est important. C'est pourquoi notre ami parlait tout à l'heure. Est-ce que ce travail se fait aussi en coordination comme avec les FAO, avec d'autres organismes des Nations Unies, par exemple, qui sont dans l'humanitaire?
Je vous ai dit que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes. D'abord, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres organisations.
Mais vous le faites aussi dans la limite de votre mandat.
Oui, voilà. Mais il y a aussi des organisations qui sont impliquées dans justement ces actions humanitaires. Et ces organisations-là, nous sommes en contact avec elles.
On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission. Deo Gracias, vous êtes à Kananga, Yannick à Manono. Deo Gracias, bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Deo Gracias, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, bonjour aussi à notre dame.
Et en bref, parce que vous avez peut-être pour vous, c'est à une minute, si on peut dire, quel est votre point de vue par rapport à ça?
Mon point de vue, en bref, je dirais que le bilan du CICR est mitigé. Pourquoi? Vous remarquerez que je cadre par rapport à ces concepts-là aux conflits qui ont eu lieu au Kassai central, dit de Kamouenansapo. Vous remarquerez que les actions de CICR et du droit international humanitaire n'interviennent plus, beaucoup plus en aval qu'en amont. Nous avons assisté à une forme de guerre qu'on appelle la guérilla en droit international humanitaire. Il y a une forme de guerre qu'on appelle la guérilla. Il y a eu l'usage disproportionnel des forces entre la milice Kamouenansapo et l'armée. C'est par là que je demande, est-ce que notre armée, par rapport aux quatre conventions de Genève, est-ce qu'elle est-elle bien instruite de manière à bien appliquer l'usage des armes à feu? C'est ça un problème. Nous avons enregistré beaucoup de cadavres qui ont pourri dans des maisons, même pas loin même de l'édifice prévu ici en Ganza, commune qui est du côté Nganza ici, vous avez suivi à l'époque, des cadavres ont pourri, aussi longtemps que l'objectif même d'Ari Douna n'était pas de cette manière, c'était d'assister les victimes, le blessé et de guerre et tout ça, et tout consort. Mais nous avons remarqué que les gens ont été enterrés dans des conditions inhumaines.
Mais est-ce que, donc, grâce à ce rapidement, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui en Gaza, est-ce que l'armée empêchait-elle les communautés d'enterrer leurs morts ou les gens de pénétrer dans les maisons pour récupérer les corps afin de les enterrer?
L'armée a même pas empêché pour que les gens n'enterrent plus parce que, vous savez, il y avait une dispersion de la population parce que c'était des exactions. C'était l'opération maison par maison. Imaginez qu'il y a dans le droit international humanitaire la catégorie qu'on appelle des non-combattants. Ce sont les gens qui ne participent plus à des guerres. Mais l'armée locale, l'armée, n'est-ce pas, républicaine, a commis des exactions. Et il y a usé disproportionnellement des forces entre les armes.
Alors pour vous, parce qu'on doit terminer, Deo Gracias, vous estimez que le bilan est mitigé parce qu'en allant sur terrain avec les conflits qui, comme Inansapo, vous vous rendez compte qu'il y a eu d'abord usage disproportionnel de la force. Et puis d'un côté, on n'a pas facilité aussi d'enterrer le mort dignement, y compris les blessés. Alors la question que vous avez posée à notre invité, est-ce que notre armée est suffisamment instruite en termes de la mise en œuvre du droit international humanitaire? C'est la question vraiment elle est spécifique à partant de ce que vous avez vu au Kassai. Alors merci beaucoup, hein, Deo Gracias. On va terminer avec vous, Jean-Nic. Yannick, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à madame l'invitée avec qui vous êtes au plateau.
en 45 secondes pour vous, je crois bien. On y va.
J'aimerais juste évoquer un seul point concernant la thématique du jour. J'aimerais demander à madame l'invité si on doit toujours passer par une formation pour adhérer dans les mouvements du sécurisme. Pourquoi cela? C'est un travail et un témoignage concret. Je vois, vous verrez quelqu'un qui se réveille le matin, il dit je vais adhérer dans le mouvement du secourisme, alors qu'il n'est pas même pas au secours quelconque. Il est là. Quels sont les conseils que madame a pour donner
à voilà, ça, si quelqu'un a besoin aujourd'hui d'adhérer, qu'est-ce qui doit se passer? Je crois bien il faut se rapprocher du bureau local, on pourra vous montrer ce qui doit être fait pour adhérer. On revient à vous, hein, madame Claudine Mouchobeko, parce qu'on va terminer. Je me rends compte que c'est un défi aussi pour les CICR d'avoir beaucoup de campagnes de sensibilisation, d'émissions pour que les gens comprennent comment le travail se fait sur terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de tout ce qui a été dit et par rapport à ces défis de l'armée, parce que c'est une question spécifique, dommage, parce qu'on doit terminer.
Oui, pour ce qui concerne la formation en DIH des membres des forces armées et sécurité, c'est comme vous le savez, le CICR vient en soutien aux États. Donc nous soutenons la RDC pour tout ce qui concerne la formation en droit international humanitaire et pour la police, pour la formation en ce qui concerne tous les dispositifs juridiques applicables aux opérations de maintien de l'ordre. Voilà. Et bon, je ne sais pas évaluer s'ils sont bien formés ou pas.
J'aimerais juste le monitoring. Quand il y a par exemple le conflit, vous faites un monitoring et vous remettez le rapport par exemple au gouvernement ou au partenaire.
Bien sûr, je vous ai dit que nous menons un dialogue bilatéral confidentiel. Et donc à chaque fois qu'il y a un souci, un problème comme vous dites, nous communiquons avec les concernés d'une manière bilatérale et confidentielle. Et cette confidentialité, c'est vraiment un principe cardinal de notre travail. Et tous les États savent que nous travaillons de cette façon-là. Mais après, quand il dit que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas été punies, voilà justement les bien fondés de la mise en œuvre. Les conventions de Genève donnent obligation aux États de prévoir des mesures préventives et répressives. C'est-à-dire se doter des textes, parce qu'on ne peut pas réprimer sans texte. Se doter des textes et puis de réprimer. C'est-à-dire de punir toutes les personnes qui sont présumées coupables des violations graves du droit international humanitaire. Et le CICR ne fait que la sensibilisation, ne fait que le soutien et on n'a pas de moyens de contraintes pour punir.
Il y a eu beaucoup de conflits armés, il y a eu aussi beaucoup de procès. Pensez-vous que sur le plan de cet aspect, y a-t-il eu beaucoup d'efforts en ce qui concerne la répression pour notre pays?
Bien sûr, il y a des efforts, mais aussi il faut voir le contexte. Voilà, il y a des efforts qui sont faits. Je vous ai dit que aujourd'hui, quand on regarde quand même la jurisprudence sur tout ce qui concerne la justice pénale internationale, on peut se dire quand même que la RDC avance.
Merci.
Et oui, ça a été fait, des choses ont été faites, mais des choses restent à faire aussi. Et demain, par exemple, nous allons parler de la sanction en cas d'abus des emblèmes.
Merci beaucoup, madame. Je crois aussi pour parole aux auditeurs, c'est pas la dernière émission parce que je me rends compte qu'il faudrait qu'on revienne encore pour essayer d'aller en profondeur. Mais déjà, on vous dit merci.
C'est très bien. Merci aux auditeurs aussi.
Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu madame Claudine Mouchobeko à Kalimba, conseillère juridique et régionale au comité international de la Croix-Rouge en RDC. Merci à Willem Lungamba et Nico Galambay pour la réalisation de ce magazine qu'on va suivre en rediffusion à 21h. Mais tout à l'heure, l'émission est sur www.radiocapi.net. Mais on se retrouve avec les auditeurs sur la page Facebook pour les discussions. Merci, au revoir.